Une cimère de pourpre légère l'enveloppait jusqu'aux sandales. Sortie précipitamment de sa chambre, elle n'avait ni collier, ni pendant d'oreille. Une tresse de ses cheveux noirs lui tombait sur un bras et s'enfonçait par le bout dans l'intervalle de ses deux seins. Ses narines, trop remontées, palpitaient. La joie d'un triomphe éclairait sa figure et, d'une voix forte, secouant le tétrarque, « César nous aime, Agrippa est en prison !»« Qui te l'a dit ?»« Je le sais !» Elle ajouta. « C'est pour avoir souhaité l'empire à Caius !» Tout en vivant de leur aumône, il avait brigué le titre de roi, qu'ils ambitionnaient, comme lui. Mais dans l'avenir, plus de crainte. Les cachots de Tibère s'ouvrent difficilement, et quelquefois, l'existence n'y est pas sûre. Antipas l'a compris. Et bien qu'elle fût la sœur d'Agrippa, son intention atroce lui sembla justifiée. Ces meurtres étaient une conséquence des choses, une fatalité des maisons royales. Dans celle d'Hérode, on ne les comptait plus. Puis, elle étala son emprise, les clients achetés, les lettres découvertes, des espions à toutes les portes, et comment elle était parvenue à séduire Eutychès, le dénonciateur. « Rien ne me coûtait, pour toi n'ai-je pas fait plus? J'ai abandonné ma fille !» Après son divorce, elle avait laissé dans Rome cet enfant, espérant bien en avoir d'autres du tétrarque. Jamais elle n'en parlait. Il se demanda pourquoi son accès de tendresse. On avait déplié le vélarium et apporté vivement de larges coussins auprès d'eux. Hérodias s'y affaissa et pleurait en tournant le dos. Puis, elle se passa la main sur les paupières, dit qu'elle n'y voulait plus songer, qu'elle se trouvait heureuse, et elle lui rappela leur causerie là-bas, dans l'atrium, les rencontres aux étuves, leur promenade le long de la voie sacrée, et les soirs, dans les grandes villas, au murmure des jets d'eau, sous des arcs de fleurs, devant la campagne romaine. Elle le regardait comme autrefois, en se frôlant contre sa poitrine avec des gestes câlins. Il la repoussa. L'amour qu'elle tâchait de ranimer était si loin maintenant, et tous ses malheurs en découlaient. Car depuis 12 ans bientôt, la guerre continuait. Elle avait vieilli le tétrarque. Ses épaules se voûtaient dans une toge sombre à bordure violette. Ses cheveux blancs se mêlaient à sa barbe, et le soleil, qui traversait le voile, peignait de lumière son front chagrin. Celui d'Hérodias également avait des plis, et l'un en face de l'autre, ils se considéraient d'une manière farouche. Les chemins dans la montagne commencèrent à se peupler. Des pasteurs piquaient des bœufs, des enfants tiraient des ânes, des palefreniers conduisaient des chevaux. Ceux qui descendaient les hauteurs au-delà de Maqueroux disparaissaient derrière le château. D'autres montaient le ravin en face et, parvenus à la ville, déchargeaient leurs bagages dans les cours. C'étaient les pourvoyeurs du tétrarque et des valets précédant ses convives. Mais au fond de la terrasse, à gauche, un Essénien parut, en robe blanche, nu-pieds, l'air stoïque. Manaé, du côté droit, se précipitait en levant son coutelas. Hérodias lui cria « Tue-le !»« Arrête !» dit le tétrarque. Il devint immobile, l'autre aussi. Puis, ils se retirèrent, chacun par un escalier différent, à reculons, sans se perdre des yeux. « Je le connais !» dit Hérodias. « Il se nomme Phanuel et cherche à voir Yaoukanan, puisque tu as l'aveuglement de le conserver. » Antipas objecta qu'il pouvait un jour servir. Ses attaques contre Jérusalem gagnaient à eux le reste des Juifs. « Non !» reprit-elle. « Ils acceptent tous les maîtres et ne sont pas capables de faire une patrie. Quant à celui qui remuait le peuple, avec des espérances conservées depuis Néhémias, la meilleure politique était de le supprimer. » Rien ne pressait selon le tétrarque. Yaoukanan dangereux, allons donc, il affectait d'en rire. « Tais-toi !» et elle redit son humiliation un jour qu'elle allait vers Galaad pour la récolte du baume. Des gens, au bord du fleuve, remettaient leurs habits. Sur un monticule, à côté, un homme parlait. Il avait une peau de chameau autour des reins et sa tête ressemblait à celle d'un lion. Dès qu'il m'aperçut, il cracha sur moi toutes les malédictions des prophètes. Ses prunelles flamboyaient, sa voix rugissait, il levait les bras comme pour arracher le tonnerre. Impossible de fuir. Les roues de mon char avaient du sable jusqu'aux essieux et je m'éloignais lentement, m'abritant sous mon manteau, glacé par ses injures qui tombaient comme une pluie d'orage. Yaoukanan l'empêchait de vivre. Quand on l'avait pris et lié avec des cordes, les soldats devaient le poignarder s'il résistait. Il s'était montré doux. On avait mis des serpents dans sa prison, ils étaient morts. L'inanité de ces embûches exaspérait Hérodias. D'ailleurs, pourquoi sa guerre contre elle? Quel intérêt le poussait? Ses discours criés à des foules s'étaient répandus, circulés. Elle les entendait partout, ils emplissaient l'air. Contre des légions, elle aurait eu de la bravoure. Mais cette force plus pernicieuse que les glaives et qu'on ne pouvait saisir était stupéfiante. Et elle parcourait la terrasse, blêmie par sa colère, manquant de mots pour pour exprimer ce qui l'étouffait.